Donc on va s'intéresser à Hébreux 10, c'est versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à une église en particulier qu'on ne connaît pas, à probablement des personnes d'origine juive, des gens qui avaient subi la persécution pendant les premiers jours de l'église. Certains pensent qu'il s'agirait d'une église à Rome, dans la communauté juive, et dans ce cas-là, la persécution pourrait être la conséquence des émeutes en 49, où les chrétiens et les juifs étaient expulsés de Rome, laissant derrière eux toutes leurs possessions. En tout cas, il s'adresse à des personnes qui ont vécu la persécution. Et avant notre passage, l'auteur des Hébreux va mettre en garde ses lecteurs. Il va leur dire de ne pas se détourner de la sainte doctrine, de ne pas se détourner de la doctrine juste. Mais il ne va pas juste leur laisser avec cette mise en garde, mais il va leur proposer une exhortation dans les versets qu'on a lus. Une exhortation à prendre courage en regardant derrière eux. Et donc, on a cette exhortation, un peu étrange peut-être à nos yeux, de se souvenir des premiers jours, des souvenirs des premiers jours où vous étiez persécutés, où vous avez souffert. Et voilà, souvent, on a entendu aussi dans la vidéo tout à l'heure, que dans la relation d'aide, l'idée c'est un peu de faire, d'oublier d'un certain côté, ou alors de faire un peu la paix avec ce qui est arrivé. Mais là, l'auteur nous invite à nous ressouvenir des persécutions. Et on a peut-être un peu une idée de pourquoi dans la suite du passage, verset 34, où il va dire « Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » On a cette idée de la joie dans la persécution, de la joie alors qu'on est en train de leur enlever les biens. Et je pense que c'est là un peu le secret de pourquoi se souvenir de ce qui est arrivé avant. Ce n'est pas juste se souvenir des souffrances, de ce qui a été vécu, mais aussi de comment la souffrance a été vécue avec Dieu. On peut peut-être se poser la question de pourquoi la persécution survient souvent dans les premiers jours d'une église. On a une première explication, simplement, entre guillemets, statistique. Quand il y a quelques personnes qui se convertissent pour la première fois, eh bien, ils sont dans la minorité. On a une majorité de personnes, soit selon l'ancien culte ou selon les traditions anciennes. Et donc, du coup, cette opposition peut se créer avec ces croyants qui découvrent une nouvelle voie et une opposition forte et féroce de tous ceux qui ne veulent pas changer. Et voilà pourquoi aussi, souvent, la persécution vient avec la croissance. Les gens dans la majorité vont se sentir soit offusqués, soit choqués, ou peut-être aussi en danger, parce qu'ils voient les chrétiens se lever, et la croissance de la communauté chrétienne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples de ça, de personnes dans des milieux où 100% pas chrétiens qui vont se tourner à Christ. On pense en Inde où les personnes qui quittent l'hindouisme, aussi d'autres parties de l'Inde qui quittent l'islam, souvent ils viennent de minorités tribales, de castes très peu considérées. Et on va faire des campagnes pour essayer de les obliger à revenir à la foi traditionnelle, en usant de violence, de menaces, en essayant de les obliger à revenir. On pense aussi au monde musulman, où souvent ce ne sont pas les membres de l'église traditionnelle qui sont les plus touchés, même si on pense à l'église copte en Égypte qui a aussi beaucoup de soucis. Mais c'est souvent les nouveaux convertis qui sont rejetés de leur famille, de leurs amis, où on va chercher à essayer de les faire revenir. En tout cas, souvent les persécutions viennent pendant les moments de réveil. Et c'est vrai qu'on a entendu un peu parler des persécutions pendant le réveil, il y a 500 ans, aux 500 ans de la réforme. On est aux 500 ans de la réforme, qui sont passés il y a 500 ans, où les églises protestantes et évangéliques devaient se réunir en secret, dans le désert, comme on l'appelait à l'époque, dans les forêts, dans les montagnes. Ils acceptaient qu'on leur vole les biens pendant les dragonnades. Ils lisaient la Bible en secret, fuyaient vers le refuge, donc des villes comme Genève, où ils pouvaient croire de façon sain et sauve. Et beaucoup étaient emprisonnés, physiquement maltraités, ou même tués avec des bûchers. Et voilà, on a entendu tout à l'heure l'exemple de Marie Durand, mais on peut penser aussi à un autre exemple, c'est Philibert Hamelin, qui était un prêtre français devenu protestant, qui avait mis en place une imprimerie de Bible, et quand il est retourné en France, il a été condamné à mort et tué en 1557. Alors, on a cette première invitation à se souvenir déjà des persécutions que nous avons vécues, et c'est important aussi de nous souvenir des persécutions que des personnes avant nous ont vécues, notamment peut-être dans nos vies un peu plus tranquilles, où on vit moins de persécutions. Il y en a, c'est sûr, mais peut-être pas à la même échelle. Et voilà, tout comme ces Hébreux, les lecteurs de la lettre, étaient invités à se souvenir des persécutions qu'ils ont vécues pour en tirer du courage, pour continuer à vivre avec Dieu, nous aussi, nous sommes appelés à nous souvenir de ces persécutions. Mais pas juste de nous souvenir, qu'est-ce que c'est horrible ces persécutions, qu'est-ce que ces souffrances, tout ce qu'ils ont vécu, mais nous souvenir de toutes ces personnes qui ont tenu ferme avec Dieu à leur côté, qui ont pu vivre la joie, la paix, dans des situations où humainement il n'est pas possible d'avoir de la joie et de la paix. Et aujourd'hui nous sommes toujours dans un combat dans notre corps contre le péché, un combat pour faire avancer l'évangile. Et voilà, nous pouvons tirer courage, tirer de ce qui a été vécu avant nous. Et donc, tirons du courage de ce que nous avons vécu, des brimades, des rejets qu'on a pu vivre dans notre propre vie. Mais tirons aussi courage des persécutions que nous n'avons pas vécues. Et donc, si on revient à cette notion de combat qu'on a toujours dans notre passage, au verset 32, cette persécution qui ont mené à un grand combat, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est concrètement ce combat ? On peut penser à ce que Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat ». J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc on a cette idée un peu sportive du combat, de la course, où c'est difficile, mais on doit continuer à courir jusqu'au bout. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la vie chrétienne n'est pas facile, ne serait-ce que par nos propres tendances pécheresses, mais aussi parce qu'on est dans un monde qui est aux antipodes de ce que Dieu veut pour nous, de ce que nous croyons. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on est un peu face à face à soit on est dans la persécution, soit on a des gens persécutés autour de nous. Et donc, il y a quand même ces deux réalités. Je sautais. Il y a ces deux réalités dont il faut tenir compte. La souffrance que nous vivons, que nous pouvons vivre, la souffrance que d'autres chrétiens vivent aussi, mais aussi, voilà, la joie que nous pouvons avoir en Christ. Et donc, en effet, la persécution peut prendre des formes différentes. On peut penser à une première forme de persécution, les attaques publiques par des accusations mensongères, des diffamations. Ça, c'est, ben, un peu dans l'idée de revenir aux sources. On pense peut-être à Naboth, avec le roi Achab qui veut, bon, là c'est, ben, qui veut son terrain. Sauf que comme Naboth est un bon juif, il sait que c'est son terrain ancestral qu'il veut le garder. Et du coup, ils vont faire des accusations mensongères contre lui. Et il va finir mort à cause de ces accusations. Et aujourd'hui, voilà, c'est toujours le cas. Dans notre passage, on a lu que les Hébreux avaient été exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, exposés en spectacle aux autres. Et là, ça ne parle pas nécessairement de spectacle au lion, de spectacle dans le cirque. Puisque ça se passe un peu plus tard, sous Néron, à partir du IIe siècle. Mais du coup, c'est plutôt l'idée que les chrétiens sont un peu montrés devant tous, devant les voisins, devant leurs amis, devant leurs compatriotes, pointés du doigt, rejetés. Et donc on a cette première persécution où finalement, on voit que tout le monde est contre nous, mais de façon injuste. Un exemple, l'histoire d'une jeune femme en Indonésie qui a choisi de suivre Jésus. Et lorsqu'elle a parlé à ses parents de sa conversion, elle est chassée de la maison du village. Et en plus de ça, ses parents vont faire courir la rumeur qu'elle est devenue prostituée. Et donc là, voilà, elle perd toute crédibilité, tout honneur. Et sinon, on a aussi entendu l'histoire tout à l'heure en Inde de deux sœurs qui ont dû fuir leur village après leur conversion, où elles ont été battues et menacées de mort. Et du coup, elles ont dû partir. Une deuxième forme de persécution dont parle ce passage aussi, c'est l'enlèvement des biens, où là, on voit l'enlèvement des biens qui a été accueillis avec joie par ces Hébreux, de façon un peu humainement compliqué à comprendre. Et c'est quelque chose qui arrive encore aujourd'hui. On a les chrétiens d'Iran, par exemple, où le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement, où l'idée, voilà, c'est d'essayer de faire cesser le christianisme en disant, si vous devenez chrétien, vous allez être pauvre. Souvent, ils sont emprisonnés et puis relâchés contre une caution exorbitante. Donc, c'est quasiment du racket pour, voilà, essayer de les faire fléchir. Je me souviens aussi d'un ami iranien qui était venu en France et dont la femme n'était pas convertie. Sa famille était très riche et du coup, la famille mettait la pression en disant, ben voilà, en France, là, t'es pauvre, t'as rien. Reconvertis-toi à l'islam et voilà, on te donnera de nouveau de tout ce que tu as besoin. Et voilà, on sait tous toute cette diaspora aussi qu'il y a en Irak, en Syrie, où on a des chrétiens chassés de leur village et qui n'ont rien, plus rien. En tout cas, voilà, on a eu la première forme de persécution qui est, on va dire, le rejet. Les accusations. Et ensuite, on a aussi les biens matériels, les biens qui disparaissent. Et un peu un aspect de ça aussi, il peut y avoir une discrimination économique, par exemple, qui commence dès à l'école, où on va donner des mauvaises notes aux enfants de chrétiens, les forcer à s'asseoir au fond de la classe, ou par exemple, les commerçants qui vont donner des prix supérieurs pour les chrétiens. Voilà. Ce sont toutes des façons où là l'objectif, c'est d'essayer de faire fléchir les chrétiens. de les faire revenir à la foi d'avant. Mais voilà, au final, la question c'est, on voit ces chrétiens qui tiennent bon. Et je pense qu'il est important de se souvenir aussi dans toutes ces questions de persécution, c'est qu'au final, ce ne sont pas les chrétiens qui sont visés. Et ça devrait nous rassurer. Le combat n'est pas à cause de nous, n'est pas à cause d'eux. Jésus dit dans Jean 15, au verset 20 et 21, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et donc, les chrétiens d'avant, comme d'aujourd'hui, comme nous, nous sommes persécutés non pas à cause de nous, mais à cause de Christ. Et au final, ce n'est pas nous qui rejettent, mais c'est Christ qui rejette. Et autant, c'est difficile souvent de faire la... de différencier ces choses dans nos têtes. Ça doit nous rassurer aussi, puisque Christ est là, à nos côtés, mais aussi rejeté. Alors, face à ces persécutions, l'auteur aux Hébreux, il nous propose un peu deux places où on peut être dans la persécution. Une première possibilité, c'est que nous soyons persécutés, tout comme ces Hébreux l'ont été. Mais de l'autre côté, la deuxième chaise sur laquelle on peut être assise, c'est on peut être moins persécuté. Et dans ce cas-là, on peut être dans solidarité avec ceux qui sont persécutés. Et donc, l'Église est appelée un peu toujours à vivre l'une ou l'autre de ces alternatives. Soit d'être persécuté, soit d'être solidaire avec les autres chrétiens qui sont persécutés. Et donc, voilà. Il y a un peu voilà, ces deux chaises sur lesquelles on peut s'asseoir et sur lesquelles... Cette église, aux Hébreux, ont vécu tous les deux. Et donc, la question, comment exprimer cette solidarité? Comment la vivre? Je pense qu'il faut déjà la vivre un peu à notre niveau, dans le sens de chrétiens, voilà. Même en France, on a des persécutions peut-être moins vives qui existent. Et dans ce cas-là, être là en soutien de personnes... je ne sais pas, qui perdent leur travail, qui sont moqués par leurs collègues à longueur de journée, être là pour partager avec eux ce qu'ils vivent. Donc voilà, ça c'est faisable à notre niveau, à niveau local. Mais voilà, comment exprimer cette solidarité? Dans Hébreux 13, verset 3, donc l'auteur aux Hébreux dit, par rapport à l'église qu'il y avait là-bas, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Et aujourd'hui encore, les prisonniers peuvent mourir de faim, à moins que leurs amis n'apportent de la nourriture, avec tout le risque que ça a. Puisqu'en apportant de la nourriture à un chrétien en prison, on annonce un peu notre couleur aussi. Et aujourd'hui, par exemple, en Érythrée, c'est toujours le cas, mais aussi pendant le temps des Huguenots, il y a eu par exemple les prisonnières de la tour de Constance qui ont été détenues dans une tour, donc, et qui dépendaient de l'argent collecté à l'étranger pour pouvoir manger. Donc, si personne ne donnait, ils n'avaient rien. Et donc, voilà, comment exprimer la solidarité? Il y a des façons, on va dire, pratiques de le faire. Et donc, voilà, comment pouvons-nous nous identifier aussi? Comment être solidaire dans la pensée? Bon, du coup, il y a des façons avec portes ouvertes de le faire. Il y a la possibilité d'en savoir plus, de connaître, en Ils ont des lettres de nouvelles, on peut s'intéresser à ce que vivent nos frères et sœurs. On peut aussi signer des pétitions ou écrire à nos députés, ou des choses comme ça. Des actions, voilà. On n'est pas sur place, mais on peut participer à distance. Nous pouvons aussi envoyer des messages d'encouragement à nos frères et sœurs. Enfin, probablement la première façon de nous associer aux chrétiens persécutés reste la prière. La prière qui est aussi une façon de nous adresser à Dieu de leur part. Au final, voilà, on a ces persécutions, ces personnes qui vivent des choses difficiles, et voilà, comment vivre cette association avec eux. Nous sommes invités à nous souvenir de nos souffrances passées pour nous aider à les tenir fermes, et en nous souvenant que Dieu nous a accompagnés jusqu'ici et qu'il continuera de nous accompagner jusqu'au bout. Nous pouvons avoir cette joie, cette paix qui nous vient de Dieu, même dans la souffrance. Mais nous sommes aussi invités à être solidaires de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans la persécution aujourd'hui. Dans Romains 12, Paul nous rappelle que nous formons tous un corps et que quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Donc, voilà. Nous vivons quelque chose dans ce corps de Christ. Nous sommes déjà solidaires un peu par défaut de nos frères et sœurs persécutés. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi penser que tout est dans un sens. Les personnes, entre guillemets, où tout va bien, qui sont solidaires de ceux qui vivent des choses difficiles. Les chrétiens persécutés aussi prient pour nous. La solidarité de l'Église s'exprime, on va dire, dans tous les sens. Les chrétiens d'Asie et d'autres pays, par exemple, pendant les attaques terroristes, ont dit, à portes ouvertes, qu'ils priaient pour la France et l'Angleterre. Et donc, souvenons-nous que nous sommes tous ensemble le corps de Christ. Nous qui sommes ici en France, nos frères et sœurs persécutés, aussi les chrétiens persécutés dans le passé. Pensons à nos frères et sœurs et tirons-en des leçons, de la force aussi pour tenir bon dans nos situations, aujourd'hui encore. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est vrai que quand nous regardons l'histoire, souvent on est frappé de voir toute la haine des personnes pour toi et pour ceux qui te suivent. Et Seigneur, ce n'est pas différent aujourd'hui, que ce soit les persécutions ouvertes dans tous ces pays où intervient les portes ouvertes, que ce soit la persécution aussi peut-être plus cachée ou plus discrète là où nous sommes ici en France. Seigneur, nous voulons tenir ferme avec toi. C'est vrai que c'est peut-être aussi des fois plus facile de tenir ferme contre l'antagonisme qui est affiché, contre les persécutions fortes, puisque là on n'a pas d'autre choix que de montrer une position forte, alors que nous, dans nos pays, c'est peut-être plus facile de laisser aller quand c'est de ne pas tenir aussi ferme qu'on devrait. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de nos frères et sœurs persécutés et à marcher tout comme eux sur ton chemin, à persévérer jusqu'au bout. C'est vrai que tes recommandations dans ce passage viennent à la suite d'une mise en garde de tenir ferme et de ne pas flancher. Et Seigneur, nous savons que nous avons besoin de ta force pour continuer d'avancer jusqu'au bout, pour continuer à progresser dans la voie que tu nous proposes. Merci Seigneur, parce que tu es venu changer notre vie. Et quelles que soient les souffrances que nous avons à vivre, que chaque chrétien a à vivre, Nous savons que la vie avec toi vaut mieux que une vie tranquille sans toi. Merci encore au nom de ton Fils. Amen.